Je peux rester une heure au bord de la mer dans cet énorme vacarme. La vie est née dans la mer, mais la mer est plus ancienne que la vie. On raconte que les premières gouttes d'eau sont tombées des astres sur la Terre.
CO2, mon amour.
Il y a une phrase magnifique de Virgile qui dit que les atomes qui tombent dans l'univers sont les larmes des choses. C'est-à-dire que, et en vieillissant, c'est de plus en plus vrai. Tout devient de plus en plus émouvant.
Denis Chessou.
Toutes les saisons, toutes les fleurs, tous les oiseaux, la vie, la nature, tout ceci nous fait pleurer davantage.
Un petit grain de voix à la mésaine. Ben non, c'était Pascal Quignard que l'on recevra d'ici quelques semaines dans cette émission. C'est très très beau ce qu'il raconte. CO2 mon amour, bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement. Ben oui, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, en tout cas qui essaie. À la technique, Élodie Royer et Florent Beauvalet, je n'oublierai pas Charles Barjou. Et puis assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Ah non, il ne nie pas complètement le réchauffement climatique, votre ancien président, mais il a dit...
Vous me dites, le changement climatique est le premier défi de l'humanité. Permettez-moi de m'inscrire en faux, il faut lutter contre le changement climatique, mais la première cause de dégradation de l'environnement, mais si vous ne voulez pas l'entendre, c'est que vous ne cherchez pas les causes et vous intéressez qu'à l'image, c'est le nombre d'habitants dans la planète.
Mais vous semblez le découvrir.
Le Nigeria va donc passer à 400 millions d'habitants. Si on ne pose pas la question de la natalité sur le continent africain, ou de la natalité en Asie, ou de la natalité dans un certain nombre de pays, on ne pourra pas protéger les équilibres écologiques de la planète.
Alors je sais, le sujet divise les écologistes depuis donc 1960, et aujourd'hui en fait tout est lié. Moi je m'appelle Soninka. Je parle comme si je savais lire, écrire, compter, comme si j'étais instruite. En fait, j'ai jamais été à l'école. Dans cette zone du Sahara qui fleurissait il y a 10 000 ans et qui s'est aridifiée petit à petit, l'école, elle est à 60 km et le puits, il est à 3 km quand il y a de l'eau. C'est quand un vrai demain? Ici, beaucoup d'enfants naissent pour mourir. Alors vous êtes d'abord d'un pays qui a la chance de s'engueuler sur la place de la voiture en ville, sur la qualité de l'air, de l'eau que vous souillez car vous en avez plein. Nous, vous savez, l'eau de la Seine, hein, ou celle qui sort de votre usine à boue rouge, on la boirait, ouais. On n'a pas de latrine, pas d'électricité, on n'a pas de cahier, pas de crayon, pas de développement qui est la clé de la dénatalité. Ah, on n'a pas besoin de débat sur la décroissance, hein, ou sur vos ancêtres les Gaulois avec qui j'ai assez peu à voir. Ben non, nous on n'a rien. On a l'amour de nos parents quand ils sont vivants, puis quand ils ont le temps. Alors oui, ici, dans cette zone d'Afrique immense, sous le soleil cinglant, les femmes mettent au monde 5 ou 6 enfants. Enfin, mettent au monde. Mais de quel monde on parle? Ma mère, elle avait 16 ans quand je suis arrivé. Ici, chez nous, on meurt à l'âge où vous mouriez du temps de Molière. Et on me dit le problème, c'est la démographie. C'est quand à vrai demain? Nos minerais, nos arbres, nos terres exploitées par d'autres pays, nos poissons, pétrole, gaz, nos pierres, c'est votre vie avant tout qui en profite. Et nos dictateurs professionnels soutenus souvent par vos régimes. Alors c'est bien parce que vous avez vendu 36 avions en rafale en Inde là cette semaine. Bah là-bas aussi les femmes ont au moins 5 enfants. Alors si vous trouvez qu'on est trop nombreux, bah il y a toujours une solution, hein. Bah oui, il faut se suicider, suicidez-vous, ça fera moins de monde. Vous voyez que c'est pas simple. Et après, c'est moi qui suis trop. Alors que vous mangez un peu de la viande comme 2,5 ou comme 3, hein, et que nous on court après la moindre protéine. Je fais pas de morale, là, c'est juste des faits. Je comprends pas ce monde. Oui, je sais. Mon continent, c'est l'Eldorado, c'est la croissance d'aujourd'hui et de demain. Ça, c'est vrai. Et moi, j'ai juste faim. Et pour nous, c'est quand un vrai demain? Alors ici, dans mon pays giflé par le sable, c'est un peu la double peine. Ah, il y a sûrement trop d'enfants parce qu'il n'y a pas de développement. Et on a quand même le réchauffement climatique. Eh ouais, que vous le vouliez ou non, que vous nous avez refilé comme une maladie. Mon bilan carbone, je ne sais pas si vous connaissez le vôtre, c'est 6-8 tonnes. Ben, moi, c'est 300 kilos par an. Dans vos pays tempérés qui vivent à crédit, bah vous voyez à peine le réchauffement, vous le sentez à peine. Nous, c'est tous les jours qu'il caillasse nos corps et nos puits, qu'il grille la terre. Alors ne changez pas de mode de vie après tout, hein. C'est génial de courir après les Pokémon. C'est quand un vrai demain pour tous les hommes? Quand allez-vous vraiment nous aider? Parce que c'est ça qu'il faut faire. Vous souhaitez vivre dans votre pays? Bah nous aussi. Il nous faut de l'électricité solaire pour décoller. Ça, Borloo et d'autres l'ont bien dit. Une agriculture sans pétrole, de l'éducation. On n'a pas envie de venir chez vous par plaisir. Mais si on n'a rien, alors on migre, on se noie, puis on vous fait peur. On est jeune, on veut vivre, c'est tout. Et pas faire 6 enfants comme nos parents, qui savent que 3 ou 4 vont mourir en chemin. C'est quand un vrai demain? Comment regagner tous en humanité? Ce qui est bon pour nous, bah, le sera pour vous. Le continent, le monde contient assez pour les besoins de chacun, mais pas pour la cupidité de tous. Il nous faut de nouveaux Gandhi, des sages qui éteignent la folie du monde. Car il est beau, paraît-il, le monde. Bah ouais, c'est ce que me disent les avions, de plus en plus nombreux dans mon ciel. Et beaucoup de gens sont beaux au fond d'eux. Beaucoup veulent autre chose pour eux, pour nous tous. Des graines formidables, il y en a partout, dans votre automne tout neuf, déguisé en été. Alors laissez-les fleurir, laissez-nous fleurir, pour qu'enfin, on ait un vrai demain. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que, là on l'a vu, le coût du solaire s'effondre, ça c'est bien pour l'électricité, ça résout pas tout, mais c'est vrai que l'Afrique va pouvoir, j'espère, un peu plus galoper dans ce domaine. Actualité, là, un petit peu, avec des décryptages, avec des voix qu'on a entendues là, cette semaine sur Inter, chez Patrick Cohen, avec peut-être tout d'abord, effectivement, quand même Gaël Giraud, qui est un homme qui est chef économiste de l'Agence française de développement, et puis justement, pour faire un peu le lien avec le réchauffement climatique, accord de Paris, Gaël Giraud.
Je crois que l'accord de Paris est un immense succès diplomatique, il faut le redire. C'est la première fois que la communauté internationale arrive à se mettre d'accord de manière aussi volontariste sur un sujet aussi important. Et en même temps, il est très largement insuffisant. Si tous les pays de l'accord mettent en œuvre ce qu'ils ont promis de faire, ça ne permettra de garantir en moyenne qu'une augmentation de la température de plus 3,5 degrés à la fin du siècle. Ce qui est bien supérieur au plus 2 degrés sur lesquels on s'est mis d'accord. Et ce qui est malheureusement compatible avec des queues de distribution, c'est-à-dire des probabilités faibles, mais non nulles, qu'on arrive à beaucoup plus. Hein. Normalement, si simplement tout le monde tient sa promesse, on a une chance sur 10 d'avoir plus 6 degrés à la fin du siècle. Plus 6 degrés, ça veut dire honnêtement que la survie de l'humanité est en jeu. Je pense que si vous, quand à chaque fois que vous prenez un avion, on vous disait vous avez une chance sur 10 pour que l'avion s'écrase au sol, vous refuseriez de monter dans l'avion.
Oui.
Ben, on est aujourd'hui dans un avion qui s'appelle la planète Terre, qui a une chance sur 10, si tout le monde tient ses promesses, à la fin du siècle, de s'écraser.
Sur le même sujet, Ban Ki-moon, qui est secrétaire général des Nations Unies, au micro de Bertrand Galichet.
I'm confident that by the time I leave
Je suis confiant dans l'entrée en vigueur de l'accord de Paris avant la fin de mon mandat. Dès le début de ce mois, les États-Unis et la Chine avaient ratifié le texte. En revanche, l'Inde et la Russie manquent toujours à l'appel, de même que l'Union européenne, car chaque État européen doit valider l'accord, qui doit aussi être accepté collectivement en tant qu'Union. Une nouvelle procédure va permettre d'accélérer le mouvement.
Alors en fait, il faut 55% des émissions de gaz à effet de serre pour que ce soit validé. On en est à 48 aujourd'hui. Encore un effort, ça devrait quand même y arriver. Ah, alors, vous aimez, vous réclamez le TAFTA. C'est normal, l'auditeur de France Inter, il adore le TAFTA. Eh ben, vous aimerez peut-être le CETA, qui est en fait un TAFTA au jus de caribou avec un peu de sirop d'érable. Et le pitch, bah, en fait, c'est Nicolas Hulot qui nous le faisait aussi cette semaine à 8h20.
Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le modèle économique qui était le modèle dominant, ce capitalisme sauvage, celui-là, il n'a pas d'issue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous nous battons également pour entraver les traités de libre-échange qui sont en train de se dessiner sans que les citoyens soient consultés, le TAFTA, le CETA et
pourquoi,
d'autres encore.
Pourquoi lancer une pétition aujourd'hui contre ces traités de libre-échange
climaticides. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans le temps de la cohérence. On a pris des engagements, je parle de la France, de l'Europe et d'un certain nombre d'États. Et je m'en réjouis. Mais ces traités vont mettre à bas les acquis environnementaux, sans parler des acquis sociaux. On doit aller dans un monde où on va favoriser les circuits courts et non pas favoriser le libre-échange. Et en même temps, ne pas permettre à des tribunaux privés d'attaquer les États, ce qui s'est passé déjà entre le Canada et les États-Unis, au prétexte que des normes environnementales contrarie les échanges commerciaux. Ce sont encore une fois des traités qui ne vont pas dans le sens de l'histoire.
Alors tout ceci n'est pas forcément l'avis de la Commission européenne. Vous n'aurez pas forcément la même analyse dans Valeurs Actuelles ou bien dans jebousillemaplanète.com. Gaël Giraud sur le même sujet.
Le cœur du débat et de la difficulté, c'est la possibilité pour un certain nombre d'investisseurs étrangers, américains ou canadiens, de porter plainte contre un État de la zone euro ou de l'Union européenne qui prendrait des décisions législatives qui seraient défavorables aux intérêts de l'entreprise. Et le différend serait tranché par un tribunal international ad hoc. Voilà. Vous savez bien que ça, c'est la possibilité de mettre à terre la souveraineté politique d'un État. Et donc, je crois que du point de vue de la politique, la philosophie politique européenne, c'est, disons, un cheval de Troie terrifiant qui est capable de fermer la page qu'on a ouverte avec le traité de Westphalie au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la création du concept même d'État-nation souverain. et donc de souveraineté populaire également, peut être mise à mal par la possibilité de la part d'une entreprise privée qui défend simplement ses intérêts privés, et elle a bien raison de le faire, de contrecarrer l'intérêt général au nom de son propre intérêt privé. C'est ça qui n'est pas acceptable.
Alors toujours dans l'actualité, demain, donc des primaires, on le sait, une présidentielle, ça vous a moyennement échappé, et l'environnement dans tout cela, eh ben aujourd'hui c'est quand même assez aux abonnés absents. On sait que la présidentielle est une tuerie. Bon, Hulot n'y va pas, et c'est vrai que c'est très difficile quand même de contrarier sa nature profonde, même avec des espoirs qui sont portés par lui, mais ce n'était pas viable.
Mais il aurait fallu pour ça que j'ai une véritable équipe des hommes, des femmes, de gauche, de droite, du centre, et se mettre d'accord sur ce que j'appelle des communs. Des choses sur lesquelles on aurait pu monter ensemble, non pas contre, mais pour, et se battre d'abord sur des idées, sur des valeurs, sur des solutions. D'ailleurs, ça ne m'empêchera pas de le faire, parce que je pense qu'avant de voter pour des hommes ou pour des femmes, il faut qu'on se mette d'accord sur les solutions, sur les idées, sur le diagnostic. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en colère quand on fait un mauvais diagnostic, par exemple notamment sur le climat, parce que comment y apporter des bonnes solutions? Et puis sur des valeurs, il y a des mots à mon avis qui ne seront jamais employés dans cette campagne. Humilité, diversité, solidarité, dignité. Voilà, c'est d'abord sur cela qu'il faut se rassembler.
Avant de passer à la suite, on va méditer sur cette note en guise de bas de page, pardon, signée Gaël Giraud.
Une société entièrement construite sur l'utopie d'une privatisation intégrale de la sphère sociale, de tous les biens, ça nous conduit dans le mur. Ça conduit aux explosions des inégalités qu'on voit aujourd'hui, à la négligence totale des impacts écologiques gravissimes de notre mode de vie, etc. Ça, il faut revenir là-dessus. Il faut réinstituer un rapport sain entre la propriété privée d'un côté, la propriété publique, un certain nombre de biens communaux qui sont gérés par des communautés locales. Voilà. On est en train de redécouvrir ça aujourd'hui, au sud comme au nord. Je prends des tas d'exemples d'initiatives qui sont prises par des communautés locales dans les villes du sud, qui font de l'agroécologie urbaine. Alors donc, vous avez des jardins écologiques qui sont gérés par des communautés locales dans les quartiers, qui permettent à ces quartiers de se nourrir, dans des villes où l'approvisionnement alimentaire n'est pas assuré partout. Ça, c'est des initiatives extraordinaires, et c'est ça qu'il faut promouvoir, c'est ça la société de demain.
Et donc revenons maintenant sur le terrain, revenons au sol avec une société avec bien moins de pesticides, un peu plus herbes folles, de tolérance générale, où il faut bien sûr un peu plus d'huile de coude dans son jardin. Luc Blanchet, bonjour, vous êtes le président des 66 magasins de jardinage botanique qui n'ont jamais mis en avant les pesticides dans ces magasins. Alors ce week-end et le suivant, on peut rapporter en magasin tous ces produits en cide. Juste rappeler que quand même, en ce qui concerne nos jardins, on utilise à peu près 9%, c'est-à-dire 7000 tonnes par an. C'est pas neutre du tout. La grosse majorité, on le sait, c'est avant tout donc l'agriculture. Mais quand même, et là-dessus, vous avez toujours eu une longueur d'avance.
Bonjour Denis. Effectivement, on est extrêmement fiers parce que on était les premiers en 2008 à avoir volontairement retiré de nos magasins tous les produits chimiques phytosanitaires de synthèse. À la base, on est une entreprise familiale d'agriculteurs, d'horticulteurs maraîchers de Haute-Savoie. Et c'est certainement de ce lien fort avec la terre qu'on retient cette préoccupation pour la préservation de l'environnement. De plus, le jardinage est un vrai plaisir. Les enfants vont au jardin et on tient à avoir des jardins les plus sains possibles. Et on peut aujourd'hui avoir une bonne productivité et des produits sains sans recourir à toutes ces méthodes chimiques.
Et pour terminer, écoutez cet extrait cette semaine du jeu des 1000 euros spécial jeunes. C'était charmant.
Que mesure un anémomètre ? Anémomètre.
Les anémones.
Eh ben oui, c'est joli. Ça, c'est une phrase d'enfant. Enfin, c'était de collégien, là, qui est pas tout à fait dans l'abstraction, mais peut-être qu'il a raison. Il faut compter les anémones avec un anémomètre, ou en tout cas avec le cœur. En tout cas, roulez-vous dans cet automne délicieux et naissant. Et après cette chanson, Edgar Morin.
Dis-moi un peu, qu'allons-nous faire pour nous protéger de l'hiver qui rôde, du bois, de la paille ou des briques? Déjà le froid, j'ai les yeux qui me piquent, le loup souffle sur la plaine. Serre-toi de ma peau, serre-toi. reposer sur les miennes. J'ai trouvé le sourire. D'autres ont coulé sous les ponts de la Seine. Hey, we're beautiful. We're beautiful again. We're beautiful again.
Attention, non ?
Pardon, monsieur, je suis désolé.
Connard ! C'est terrible ce qui vous est arrivé !
Quoi ? On a touché à ton rétroviseur.
CO2, mon amour.
Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres ? Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours.
Tu leur as dit merci aux vaches !
Mais vous êtes fou, monsieur.
Mais elle est belle, ta vie, Mouro. Elle est belle, belle, belle à crever. Regarde-la, Mouro.
Mais voilà,
le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible.
Denis Chessou.
Ah bah oui, c'est terrible, c'est comme ça. Bah oui, c'était dans la crise. Sociologue, philosophe, anthropologue, étudiant permanent, un nouvel ouvrage aux éditions Le Mieux Éditeur, Écologiser l'Homme, rencontré il y a 3 semaines, donc à Paris, avec donc Edgar Morin.
Digestif. Ah ça, c'est le thé. Vous voulez pas un autre qu'on partage ce thé ?
Le thé, je viens de
partager ce thé.
Donc Edgar Morin, c'était pas forcément la première question, mais enfin vous marchez au thé, vous avez besoin de thé.
Non, c'est juste une brusque envie de thé, mais il est le matin, je prends beaucoup de thé vert, c'est sûr. Je me lave l'intérieur avec du thé vert.
Et voilà. Vous prenez du thé, en plus c'est un formidable antioxydant en ce qui concerne le thé vert, voilà. Alors remarquez, antioxydant, ça peut nous amener sur l'oxydant, cette affaire-là. Edgar Morin, on est ravis de vous rencontrer. Écologiser l'homme, ce qui veut dire ouvrir en fait des voies humanistes hein, pour vous, c'est aux éditions Le Mieux Éditeur. Alors c'est vrai que vous êtes un des penseurs de la complexité aujourd'hui, parce qu'on sait que tout bouge, mais pas forcément dans le même sens. Et alors, dans cette complexité aujourd'hui, quelle peut être la place de l'écologie, qui est quand même une idée, évidemment, complètement neuve. Elle date du XXe siècle, enfin, 1866 pour M. Haeckel, qui a forgé ce nom, mais politiquement, c'est quand même extrêmement récent. Donc, au milieu de toutes ces suites de chaos, la place de l'écologie, qu'est-ce que ça peut être ?
Je dirais que c'était la première grande science complexe. Dans quel sens ? On enseigne les sciences sous forme de discipline, la biologie, la psychologie, la sociologie, etc. Or, la notion première de la science écologique, c'est l'écosystème. C'est l'ensemble des interactions qui prennent un caractère organisateur entre les différentes espèces animales, végétales, le climat, la géologie, la géographie, etc. Autrement dit, l'écologie comme science est obligée de faire appel aux connaissances des différentes disciplines. Et puis, j'ajoute que l'écologie doit tenir compte aujourd'hui, pas seulement des relations entre animaux, végétaux, etc., mais l'intervention humaine qui a commencé dès la préhistoire avec des incendies de forêt, qui a continué avec l'agriculture et qui aujourd'hui, avec la civilisation industrielle, cette sorte de prolifération économique est en train de dégrader totalement notre biosphère. Et c'est cette prise de conscience qui est arrivée à la fin des années 60, en 70, qui a été extrêmement lente à entrer dans les esprits. Je l'explique parce que nous sommes dans une civilisation qui avait entièrement séparé l'homme de la nature, y compris de sa propre nature biologique.
Il suffit de relire la Bible, hein, déjà aussi.
Voilà. Dans la Bible, Dieu crée l'homme à son image. L'homme est une sorte de reflet divin. Avec le développement de la modernité, c'est-à-dire aussi de l'économie, etc., c'est Descartes qui dit qu'à ce moment-là, l'homme doit se faire le maître et le possesseur de la nature. Mmh. Et pour lui, l'animal est une pure machine, comme les machines artificielles, et n'a pas d'âme, n'a pas d'esprit.
Les animaux sont comme des bêtes, d'où leur nom. Ne possédant pas d'intelligence supérieure, ils passent leur temps à faire des bulles ou à jouer dans l'herbe au lieu d'aller au bureau. Ils mangent n'importe quoi, très souvent par terre. Ils se reproduisent dans les clairières, parfois même place de l'église, avec des zézettes et des foufounettes. Les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir, c'est pourquoi ils continuent de batifoler quand ils ont 37,6.
Tout ceci a conduit à un aveuglement total qui est très difficile à réserver parce qu'au fond, notre... Prenez par exemple les Indiens des Andes. Pour eux, il y a Pachamama. Ils sont dans la terre-mère, la mère nature. Mais nous, c'est uniquement dans des rêveries poétiques qu'on évoquait la nature. Donc il faut réintégrer ça, ce qui est très difficile puisque l'écologie n'est pas enseignée en tant que telle dans les universités, ni même en tant que telle dans l'enseignement secondaire. Pourquoi ? Par son caractère transdisciplinaire. Donc, vous avez cette sorte de carence dans notre enseignement. Et tant qu'elle ne sera pas introduite dans l'enseignement, ce sera très, très difficile de prendre conscience. Cela dit, maintenant, il ne s'agit pas seulement de se rendre compte de tout le mal que nous faisons à la nature et indirectement à nous-mêmes.
Vous le dites, dénoncer ces faits, mais maintenant il faut énoncer.
Voilà. Aujourd'hui, on le sent bien, les océans sont pollués, le plancton est menacé, et le plancton est une nourriture de base du monde aquatique. Les grandes forêts sont menacées, notamment maintenant, en plus avec le réchauffement, pas seulement le déboisement et l'exploitation éhontée, mais le changement climatique. Donc tout ceci est menacé. Et il faut comprendre que c'est un problème qui n'est pas seulement extérieur, qui nous est intérieur, parce que nos propres ressources, elles viennent de nature. Si l'océan est stérilisé, bon...
Votre notion de terre-patrie.
D'où la notion... Voilà. Alors, ce que nous manque aussi, c'est de comprendre qu'avec la mondialisation, sont apparus des problèmes communs à toute l'humanité, dont le danger écologique, le danger nucléaire et quelques économiques, etc., et qu'à ce moment-là, la Terre est notre patrie. Cette conscience nécessaire, elle manque. Pourquoi elle manque ? Parce que dans la crise mondiale, au lieu de comprendre qu'il faut nous unir sur le plan planétaire, la plupart des esprits se réfugient, se recroquevillent dans leur identité ethnique, oui, religieuse, etc. C'est-à-dire,
c'est l'inverse. Hein,
voilà, c'est l'inverse de ce qui devrait arriver. Ajoutons que ce problème écologique concerne notre propre agriculture, pas seulement en France, mais dans le monde. Pourquoi ? Parce que le développement de la monoculture industrielle et de l'élevage industriel, ça détruit les sols, ça leur enlève la vie, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus d'oiseaux. Les pesticides eux-mêmes dénaturent nos éléments. Cette production industrielle leur fait enlever toute qualité gustative. Les tomates et les pommes sont standardisées comme des objets qui sortiraient d'une usine. Donc, si vous voulez, la dégradation, elle n'est pas seulement dans nos étangs, dans nos rivières, elle est dans nos champs que nous avons livrés. Et pas seulement en France, mais en Afrique, partout dans le monde.
Alors, ce que vous dites, c'est que le problème le plus grave n'est pas forcément que l'homme use et dilapide l'énergie naturelle, parce que s'il en trouvera à revendre dans le soleil, voilà, entre autres. C'est pas tant qu'il vidange ses déchets, parce qu'évidemment, tout être qui est sur Terre est excrémentiel. Donc, il peut y avoir un recyclage. Mais pour vous, le danger numéro un, c'est le poison qui dégrade sans pouvoir être dégradé.
Exactement. Et les États... sous le poids des gros lobbies économiques agricoles, favorisent la grosse agriculture et pas l'agroécologie qui, elle, porte en elle le salut. Ou même, disons, si on retournait à une agriculture fermière ou raisonnée, on ferait un énorme progrès.
Alors,
comment vous avez fait, vous? Parce que quand même,
vous êtes un gamin de 1921. Et puis, bah, vous êtes en forme. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'ADN, il y a peut-être celle de vos parents, il y a l'envie, l'énergie que vous avez toujours. Et puis peut-être aussi ce que vous avez mangé, moi je sais pas.
Bah écoutez, j'ai pas mangé de l'épinard comme Popeye. il est certain que dès que j'ai la conscience un peu écologique, je me nourris principalement de produits bio. Et je crois, si vous voulez, qu'il faut comprendre que ce problème écologique va toucher notre mode de vie. Parce que nous avons des intoxications consommationnistes, c'est-à-dire les fascinations des rayons de supermarché font acheter tel ou tel produit qui sont une belle présentation, une belle publicité. Et les publicités vendent des produits absolument inutiles, mais qui sont censés apporter la beauté, le charme, etc. Tant que nous, les humains consommateurs, ne deviendrons pas une force consciente, capable de sélectionner ce que nous voulons consommer et de rejeter, boycotter ce que nous voulons pas consommer, les choses n'évolueront pas. Mais ça commence, puisque j'ai vu que se sont créées deux associations de consommateurs assez récemment et que l'union, si vous voulez, de la conscience écologique va pouvoir aller très loin, ne serait-ce pas seulement pour l'alimentation, mais tous les produits qui sont, qu'on appelle à obsolescence programmée, qui sont programmés pour ne peut pas durer plus de 8 à 10 ans.
Parce que la machine,
les frigidaires, les voitures, etc. Or, tout ceci est un gaspillage énorme. Aujourd'hui, si vous voulez, la lutte contre la toute-puissance de l'argent fait partie de la conscience écologique, parce que cette toute-puissance nous pousse à prendre des produits inutiles, toxiques et superfétatoires.
Allons-y, madame, c'est à nous. Un mini dur, un maxi moula, coquille de Michel Sardou, sirop de veau, six tartes aux fraises, une crème de jour, une crème anglaise, des micro-tampons, femme à l'aise. Notre menu gourmand taillot pour le kleps et pour les marmots, nos délicieux bonbons fluo et 120 rouleaux de papier cul.
Avant tout de même, ils évacuent.
N'oubliez pas votre reçu.
Vous avez parfois des écologistes qui sont absolument contre la science, totalement, ils disent non, c'est très mal. C'est pas du tout votre cas.
Vous savez, la science, elle est profondément ambivalente. Voilà. Elle nous a apporté des connaissances fabuleuses. Ce qu'on sait maintenant grâce à l'astrophysique sur notre univers est irremplaçable. Ce qu'on a appris par la biologie sur le patrimoine héréditaire et sur les comportements animaux est irremplaçable. Enfin, les sciences nous apportent beaucoup d'élucidations. Mais aussi, les sciences, il faut dire aussi qu'il y a l'autre aspect, c'est que la science, à partir du XXe siècle, a développé des pouvoirs inouïs, ne serait-ce que la première, c'est l'arme nucléaire. Il faut penser que tout ça est parti de scientifiques de laboratoire Fermi en Italie en 1930, qui a découvert la structure de l'atome. C'était une connaissance purement intellectuelle. Personne ne pensait que ça pouvait servir à quelque chose. Mais dès que ça approchait la guerre mondiale, un certain nombre de scientifiques ont dit « Tiens, ça, on peut peut-être utiliser l'énergie de l'atome. Joliot-Curie en France, Einstein, etc. » Et alors, donc, si vous voulez, cette découverte scientifique si importante, aujourd'hui, menace de vie l'humanité. Et aujourd'hui aussi, prenez les manipulations génétiques qui vont être possible de plus en plus, et en plus, sur l'embryon, à partir du moment où vous pouvez avoir un enfant à la commande avec des yeux de telle couleur, et ça, vous risquez de standardiser la production de l'humanité, alors que nous avons des esprits originaux, parce que nous avons des gens très divers, y compris des gens à la limite de la folie, car le génie est souvent ça.
Mais donc, toutes les grandes inventions ou toutes les grandes idées sont nées, vous le rappelez aussi, quand même de la marge. Que ce soit Jésus à son époque, que ce soit Mahomet, que ce soit le socialisme au 19e siècle, j'en passe et des meilleurs, c'était des marginaux tout ça.
Bien sûr, mais ce que je crois aujourd'hui, c'est que la science a des pouvoirs de manipulation terrifiants, en même temps que des pouvoirs bénéfiques. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui me différencie? C'est comme de ceux qui sont partisans de la décroissance. Qu'est-ce qui me différencie de ceux qui vivent dans une psychologie binaire? C'est oui ou non. Moi, je ne sais pas cette psychologie. Je dis l'un et l'autre. La science, elle est bonne et elle est mauvaise aussi. Et là, le tout, c'est de pouvoir tirer profit de ses bons aspects et de pouvoir inhiber ses mauvais. La croissance, il faut savoir ce qui doit croître. à commencer par l'économie écologique, elle doit croître. Mais ce qui doit décroître aussi, c'est une économie de guerre, c'est une économie du frivole, du superficiel.
Vous dites que la prise de conscience de la communauté de destin terrestre doit être l'événement clé de la fin du millénaire. Donc ça, c'est en 1993, hein, vous avez
écrit ça. Et ça ne s'est pas passé.
Voilà, nous sommes solidaires dans et de cette planète. C'est notre terre patrie, donc c'est bien ça. Alors aujourd'hui, comment on fait pour amener les gens justement à une adhésion différente? À leur dire que leur bonheur personnel ne sera pas forcément touché, quoi.
On n'a inventé aucun moyen nouveau de faire prendre conscience. Ça se fait par les relations, ça se fait par les écrits, ça se fait par les discours, ça se fait par les prêches, etc. Et à un moment donné, les esprits sont frappés, parce qu'il faut aussi que la réalité collabore. Moi, je cite cette phrase du poète Hölderlin, « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Bon, qu'est-ce qui a favorisé la dernière conférence sur le climat ? Qui a pris des décisions bonnes, mais malheureusement qui ne sont pas appliquées. Mais au moins, elle a suscité. Ça veut dire qu'on commence à comprendre. Et plus nous aurons des phénomènes de réchauffement climatique, de fonte des glaciers, de fonte de la banquise, d'élévation du niveau des mers, de canicules comme celles que nous avons vues à Paris, ben, plus nous aurons de ces événements dramatiques, plus nous serons capables de prendre conscience. Et à mon avis, c'est l'approche des catastrophes qui peut nous sauver. C'est malheureusement, on en est là, parce que sinon, tout ce que nous disons, nous, non seulement est marginal, mais reste marginal. Beaucoup de gens pensent que tout va bien, que j'ai lu beaucoup d'articles en disant « Ah, quelle époque merveilleuse, il y a eu aussi peu de guerres ». On dit ça en pleine guerre de Syrie, alors qu'on n'a jamais vu une guerre aussi folle où tous se battent contre tous. Beaucoup de gens disent, mais regardez, le niveau de vie s'accroît en Chine et en Amérique du Sud. Mais ils ne voient pas aussi, c'est vrai qu'une partie des populations accède à des standards de classe moyenne là-bas, mais une énorme partie de la population est passée de la pauvreté à la misère et dans tous ces bidonvilles. Donc si vous voulez, les gens, s'il y a cette illusion, tout va bien, c'est le somnambulisme qui domine, on vit au jour le jour.
Puis vous dites bien
et
que
l'écologie, c'est un élément central de la prise de conscience.
Et nous allons poursuivre donc ce voyage dans les mots, dans les idées d'Edgar Morin. Ce sera juste après, et ça c'est très agréable aussi, Agnès Obel.
Thank you.
Choisi avec goût par Muriel Pérez, notre programmatrice, c'était Familière avec Agnès Obel. Bah, vous êtes posé la question, vous avez un peu répondu, quel âge il a, quel âge il a? Bah, 1921, oui, 95 ans. Eh oui, comme quoi le thé vert, hein, ça marche aussi quand même très bien. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Et donc, autre question à Edgar Morin. En fait, une question toute simple. De quoi est constitué, en fait, un être humain dont on n'a pas forcément conscience?
L'humain est une réalité trinitaire. C'est-à-dire composé de trois aspects inséparables, comme la Sainte Trinité. L'individu, l'espèce, donc on est des êtres biologiques, et la société. On est des petits bouts de société, on est des petits bouts d'espèce, et on est des individus. Ces trois notions sont liées. Or, ce qui est biologique en l'humain, c'est dans les facultés de biologie. Alors, le cerveau est biologique, mais l'esprit est psychologique. Ah oui, tout ça, c'est séparé.
Notre réalité est complètement autre, en fait.
Notre est coupée en deux, en petits morceaux. D'ailleurs, nulle part, on enseigne ce que c'est qu'être humain. C'est une des lacunes les plus énormes de notre système d'enseignement. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faudrait réformer.
Alors, il y a quand même ces deux logiciels qui nous dirigent, que vous connaissez par cœur. C'est à la fois le moi-je, c'est-à-dire le côté, on va dire, vital, qui est absolument nécessaire pour se nourrir, pour se défendre et se développer. Et puis, il y a le nous.
Oui.
Alors, le nous va s'opérer, alors peut-être d'un point de vue communautariste, familial, amical. Mais notre société a quand même développé beaucoup plus le moi-je, parce que je le vaux bien, quoi.
Bien sûr. Le « nous » est atrophié, tout ce qui est solidarité traditionnelle s'est dégradé, depuis la grande famille qui n'existe plus, la solidarité de village qui n'existe plus. Et c'est vrai que là-dessus, il faudrait... Moi, j'avais proposé, il y a pas mal de temps, un, de créer des maisons de la solidarité, où les bénévoles pourraient aider les détresses, parce que les détresses, les chagrins, les vieux qui sont seuls, les femmes abandonnées. Enfin, il y a tellement de détresse dans notre société auxquelles ni le SAMU ni les pompiers ne peuvent répondre. Et j'étais pour la résurrection, non pas du service militaire, mais pour un service civique des jeunes où ils apprendraient la solidarité. Ça me semblait nécessaire. Alors aujourd'hui, on recommence à parler de service civique. Je pense que c'est ça. Mais le service civique, ce but, c'est la solidarité. En France, mais pas seulement en France. Si vous avez vu, il y a un tremblement de terre récent en Italie, hop, aussitôt, on envoie des brigades en Italie et des gens.
Dis donc, je te trouve bien gonflé de te balader en veste de pilote.
Je les emmerde.
Et puis, tout ce que tu leur fais?
Tu sais, moi, la guerre, s'il n'y a pas de sport...
Si je te disais que j'ai de quoi te faire faire du sport.
Du vrai sport?
Oui. Il faudra que tu te lèves de bonne heure. Que tu passes des nuits en chemin de fer sur la route, sans jamais chercher à savoir ni à comprendre.
Tu m'intéresses.
Aujourd'hui, on va dire que votre grand œuvre, ça a toujours été de sauver le monde de ce qu'il est. C'était votre ligne directrice depuis que vous êtes tout jeune, depuis que vous avez résisté.
C'est vrai, puisque c'est le mieux qui rappelle dans sa préface à mon livre, oui, que quand je parlais en 1942 avec mon camarade Philippe de Chartres, qui m'a dit « Mais pourquoi es-tu entré dans la résistance ?» Moi, j'ai dit « Mais je ne peux pas m'abstraire d'un conflit mondial qui implique le destin de toute l'humanité. » Et c'est vrai que, bon, une fois ce conflit terminé, le problème de l'humanité s'est reposé sans arrêt. Et qu'aujourd'hui, à partir de la mondialisation, il se porte de façon absolument aiguë. Donc c'est vrai que c'est une préoccupation fondamentale et que le problème écologique est très rapidement devenu pas seulement une série de problèmes locaux, mais un problème global pour toute l'humanité. Et dans le fond, nous oublions toujours que tout en étant français, européen, occidentaux, tout ce qu'on veut, on est à bâbord humain, des hommes. Moi, si on me dit comment vous définissez votre identité, moi je dis, mais j'ai un seul substantif et beaucoup d'adjectifs. Mon substantif, c'est je suis être humain. Mais je suis français, je suis méditerranéen, je suis européen, je suis d'origine juive, etc. Je peux donner tous les adjectifs qui me caractérisent, mais avant tout, je suis un être humain.
Edgar Morin, Jean-Marie Pell pensait, je crois, assez comme vous, que notre histoire aujourd'hui de consommation à tout va, c'est-à-dire on regarde les problèmes humains à travers les PIB et les sondages, pour faire très simple, serait une aimable parenthèse dans l'histoire humaine, mais que derrière, il y aurait évidemment une suite de chaos. Donc il y a un moment, c'est ce que vous dites avec Pierre Rabhi, c'est-à-dire que si on ne se change pas nous-mêmes, ça va être compliqué. Mais malgré tout, il y a quand même des donneurs d'ordre. Et les donneurs d'ordre, c'est le monde de l'entreprise, qu'il ne faut surtout pas évidemment fustiger loin de là, mais c'est quand même ça et aussi les politiques. Mmh. Et là, c'est quand même encore compliqué. On voit bien qu'il y a un décalage entre la pensée politique et puis ce qu'attendent les citoyens.
Ben, il y a un décalage entre l'absence de pensée politique et les besoins humains. Aujourd'hui, il ne suffit pas de réformer la société si on peut la réformer. Il ne suffit pas non plus de se réformer soi-même. D'ailleurs, moi, j'ai bien connu des tentatives, notamment ces communes que j'ai connues en Californie, où des jeunes qui quittaient un monde égoïste de leur famille, riche, pour vivre un peu dans le dénuement, mais en communauté. Mais au bout d'un certain temps, ces communautés se dissolvaient sous le poids de querelles, etc. C'est très difficile de réformer. Mais on est, si vous voulez, dans un premier temps, on est condamné à réformer sa vie, ne serait-ce qu'à réformer sa consommation, ce qu'on prend, ce qu'on mange, ce qu'on fait. Et on est aussi de voir que devant le flux de cette sorte d'égoïsme et d'égocentrisme, on sent que c'est vital pour nous d'avoir de la convivialité, de la communauté.
Ce que disait d'ailleurs Jean-Marie Pell en parlant de la civilisation de l'amour. Alors lui, il disait, vous voyez, mais c'est un peu ça. On a de la chance parce qu'on n'a pas encore privatisé la solidarité et la convivialité. C'est déjà pas mal. Hein,
non, on ne les a pas privatisés. Mais vous savez, ce qu'il y a, c'est qu'elles sont invisibles pour des technocrates et des économocrates qui voient la réalité à travers le calcul. Or, vous calculez le PIB, vous calculez les sondages d'opinion, les opinions, vous calculez la croissance, vous calculez, mais vous êtes incapable de calculer la souffrance humaine, le bonheur humain, le désir, l'amour et toutes ces choses-là. Toutes les réalités, ils sont aveugles sur notre réalité les plus profondes. Et nous, nous sentons bien, si nous plongeons un peu en nous-mêmes, que ce qui est plus important que tout, c'est d'être bien avec autrui et avec soi-même.
Il y a quand même aussi tout un continent que vous connaissez, c'est l'Amérique du Sud. Oui. Et là, il y a ce qu'on appelle le buen vivir. Moi, c'était notre ami Patrick Vivray qui m'avait fait découvrir ça, et puis vous aussi. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça aussi, c'est plein d'espoir, c'est autre chose.
Mais vous savez, c'est une idée qu'a formulée en premier Morales, qui est le premier président indigène arrivé au pouvoir dans un pays composé de 80% d'indigènes indiens, c'est-à-dire la Bolivie. Alors, le bon vivre, c'est justement, nous, ce qu'on appelait le bien-être, c'est dégrader dans la possession d'objets matériels et le confort. Eux, le bien vivre, c'est de vivre en communauté avec la nature, en communauté avec les autres, en harmonie, en fraternité. Et le bon vivre a été repris aussi par Correa, le président de l'Équateur. Et ce sont des thèmes, à mon avis, qui sont très importants. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouveau savoir-vivre. Mais savoir-vivre, ce n'est pas les rites de police, c'est très profond. Et le savoir-vivre, de savoir bien vivre. Et c'est ça, je crois, qui est inséparable du message écologique.
L'encyclique du pape François sur l'environnement a été publiée ce jeudi. Il y réclame une révolution et appelle les puissants de ce monde à agir vite pour sauver la planète. Selon lui, c'est bien l'activité humaine qui est la principale responsable du réchauffement climatique et les pauvres en sont les premières victimes.
C'est donc un appel à la responsabilité basé sur la mission que Dieu a donnée à l'homme de cultiver et de préserver le jardin dans lequel il a été placé.
Ce texte est le premier entièrement rédigé de la main du pape François. Il y dénonce aussi un système économique soumis aux diktats du marché et une culture du déchet.
On a eu aussi un espoir quand même avec l'encyclique du pape François. Que l'on soit croyant ou non, peu importe, il a quand même parlé de la maison commune. Et là aussi, je crois que c'était assez courageux, on l'a déjà dit, dans une Bible qui sépare la création de l'homme et des animaux. Donc il y a quand même eu un message assez fort là.
Mais à mon avis, c'est un texte magnifique. C'est même peut-être le plus beau texte sur le problème global de l'écologie qui a été pondu ces dernières années. D'ailleurs, l'événement tout à fait inattendu aussi, ça serait qu'un pape se mettrait à la tête de cette chose-là, que ce pape s'intéresserait vraiment aux pauvres et à la misère humaine. Enfin, il y a eu cette rupture avec les papes antérieurs, et je pense que là aussi, l'inattendu arrive. Il peut arriver pour le pire, il peut arriver pour le meilleur.
Juste avant de se quitter, Edgar Morin, qu'est-ce qui vous rend quand même profondément heureux aujourd'hui ? Alors là, c'est aussi bien peut-être de prendre un thé que vous aimez. C'est ce petit âne que l'on ne voit pas, qui est juste derrière vous, que vous avez rapporté d'Espagne et qui vous tient à cœur. C'est bien sûr l'amour, mais qu'est-ce qui vous rend profondément heureux ?
D'abord d'être en vie, en santé apparente, c'est de... Mais aussi, c'est d'être en accord avec moi-même, avec ce que je crois. C'est d'avoir gardé mes aspirations de jeunesse en ayant perdu mes illusions de la même époque. De vivre en aimant la femme avec qui je vis. Beaucoup de choses me rendent malheureux en même temps. Vous savez, je ne suis pas tout euphorique. Beaucoup d'informations que j'apprends me rendent malheureux. Tout ce qui se passe en Syrie... Le malheur des réfugiés, enfin tout ça. Vous savez, on doit vivre en puisant dans ce qui vous donne l'émerveillement et de la vie. Et il faut puiser dans l'énergie pour supporter la cruauté du monde et la combattre.
Et alors, vous dites aussi que l'homme doit se considérer comme le berger des nucléoprotéines, c'est-à-dire en fait les bases de la vie, oui. Et non comme le Gengis Khan de la banlieue solaire. Moi, j'ai adoré cette formule. Enfin, oui.
Mais écoutez, on doit être le berger, et en même temps, moi je disais que la nature, que la planète doit être co-dirigée par l'homme. Nous devons être des copilotes de la nature. Mais on est devenus, qu'on le veuille ou non, des bergers du vivant.
L'homme est un être doué d'intelligence. Grâce à son intelligence, l'homme peut visser des boulons chez Renault jusqu'à 60 ans sans tirer sur sa laisse. Il arrive aussi, mais moins souvent, que l'homme utilise son intelligence pour donner à l'humanité la possibilité de se détruire en une seconde. On dit alors qu'il est supérieurement intelligent.
Voilà, et donc tout ceci, vous l'avez compris, en résonance aussi avec Hulot, avec Gaël Giraud, donc Edgar Morin, et donc cet ouvrage aux éditions Le Mieux Éditeur, Écologiser l'Homme. Donc vous l'aurez aussi en podcast. Hein. La semaine dernière, ça un petit peu déconné, il faut bien le dire. De nouveau, vous pouvez écouter Lydia et Claude Bourguignon, sans problème, sur les sols, hein, on était dans le Lot. C'est possible maintenant, on a eu des problèmes, on espère qu'on n'en aura pas cette semaine aussi avec Edgar Morin. Et dans quelques instants, quand la nature inspire les écrivains, ce sera Jean-Jacques Rousseau.
The end of the century. I said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please. But I nearly died. For what it's worth. Light up your eyes for what it's worth. Shaped hole tonight for what it's worth. Got no lover 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 for what it's worth. Got no lover. Got no friends. Got
got no lover.
Ah oui, non, ils ont pris des vitamines, c'est incontestable. C'était Placebo sur France Inter, CO2 Mon Amour, avec notre dernière et nouvelle séquence depuis septembre. Quand la nature inspire les écrivains, c'est un livre aux éditions Plume de Carotte. Et là, on va demander à Gigi, enfin Jean-Jacques Rousseau, d'intervenir.
J'ai lu Rousseau tout entier. Il y a des pages de lui qui me sont si familières qu'il me semble les avoir écrites. Tout ce qu'il a touché, tout ce qu'il a touché reste à jamais touchant. Sa montre, ses manchettes, sa tabatière, les paysages qu'il aima, les maisons qui furent siennes, oui, tout et parfois même jusqu'aux mots dont il s'est servi.
Ah, plongeons dans le XVIIIe siècle, avec donc cet homme de liberté, Jean-Jacques Rousseau, et avec l'auteur de ce livre, Quand la nature inspire les écrivains. Bonjour Elisabeth Combre.
Bonjour Denis Chessou. Oui, Rousseau nous dit en 1762, au début de son ouvrage du contrat social, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Alors cet ouvrage qui a inspiré les révolutionnaires français, hein. Mais Rousseau lui ne disait pas coupons des têtes pour être libre, il disait que la solution se trouvait dans la nature. Et c'est d'ailleurs sous un chêne, hein, c'est ce qu'il raconte, mais sur sa route pour rendre visite à Diderot, incarcéré donc dans les fers pour un de ses livres, que lui viennent à 38 ans toutes les idées qui feront toute son œuvre. Il marche et cette marche lui ouvre l'esprit et il a une sorte de révélation. Et donc au centre de la pensée de Rousseau, c'est cette liberté. Alors, la liberté de marcher dans la nature, la liberté de penser et puis la liberté de pousser pour les plantes et pour les plantes dans les jardins notamment.
Et dans Julie ou la nouvelle Héloïse, bah c'est assez net, hein. C'est aussi quelqu'un en fait qui souhaite pas trop les jardins trop faits, trop carrés.
Ni trop carrés, ni trop artificiels. Alors, il aime pas les jardins à la française parce qu'il y a trop de lignes droites. Il aime pas non plus tant les jardins anglais, hein, qui se développent parce qu'on y met des ruines, des constructions factices. Lui, il aime les jardins où l'intervention de l'homme est la moins visible possible et où les plantes sont belles parce qu'elles vivent, elles poussent librement. Notre rapport à la nature lui doit beaucoup.
Bah, c'est un formidable vulgarisateur, hein. Je crois qu'il a quand même aidé la bourgeoisie, la noblesse, donc à découvrir, à s'émerveiller face à cette nature.
Oui, c'est lui qui a mené un peu une partie de la bourgeoisie, de la noblesse. Alors, dans les montagnes, auparavant, la montagne faisait peur. Là, elle continue à faire peur, mais on va se faire vibrer, on va aller avoir de fortes émotions en montagne, dans les pas de Jean-Jacques Rousseau, dans les Alpes suisses en particulier. Et puis, il les a amenés aussi à s'émerveiller, le nez dans l'herbe, devant une graminée, devant un papillon, pour que tous ces gens comprennent quelque chose, effectivement. Il a écrit La Fée des Herbiers, il a écrit, alors pour la fille d'une de ses amies, hein, la duchesse de Portland, la petite avait 4 ans, donc c'était à la duchesse d'expliquer à sa fille, mais il a fait une série de lettres qui expliquent la botanique. Il a aussi imaginé un code pour reconnaître les plantes, pour emmener sur des petits calepins, pour emporter.
C'était les premières informations, on va dire, portatives, avec des carnets nature. Oui. C'est le vulgarisateur des carnets nature.
Et puis les herbiers, pour Rousseau, c'était pas seulement pour transmettre, c'était aussi pour lui. À la fin de sa vie, il parle de ses herbiers comme sa mémoire des jours heureux, quand lui ne peut plus marcher dans la nature. Et marcher dans la nature, pour lui, c'était tellement important dans la fin de sa vie, où ses livres avaient été interdits, où il se sentait persécuté, il trouvait la sérénité dans les prés, dans les herbes, avec les nuages au-dessus de sa tête.
Et même quand il était sur la fameuse île Saint-Pierre, hein, donc sur le lac de Bienne, ça l'a aidé, ça. Donc.
Oui, il a passé des moments, et c'est là qu'il a écrit ses fameuses rêveries d'un promeneur solitaire, où il nous raconte la beauté des fleurs, où il mêle à la fois l'écriture, la poésie et la botanique. Il a une façon de décrire l'explosion des fruits, parler de l'ortie, de la pariétaire, des étamines. Il mélange des mots qui... pris séparément, on se demande un petit peu parfois ce que ça peut être, enfin on sait ce que c'est qu'une ortie, mais après dans le détail il y met de la botanique et ça fait de la poésie.
Et ben, c'était notre petite pastille du XVIIIe siècle, une nature on va dire refuge qui console et qui ressource. Donc Jean-Jacques Rousseau, merci Elisabeth Combre, Quand la nature inspire les écrivains, et à très bientôt, au revoir Elisabeth.
Au revoir Denis.
Et comme nous avons quelques raisins de se mettre en colère, et non pas en colette, c'était déjà fait colette, ce sera Steinbeck la semaine prochaine. Mais ça sent la fin de l'émission. Oh bah oui, quand même, il est pas loin de 15h. Merci à Elodie Royer, à Florent Beauvalet, Charles Barjou, Camille Blanès qui réalisait l'émission, Xavier Pestugier qui a colorisé tout l'entretien avec Edgar Morin. Donc tout ceci, bien sûr, vous le savez, vous le retrouvez ceci en podcast. Ça devrait marcher. Les Bourguignons, la semaine dernière, vous retrouverez aussi Jean-Louis Etienne qui était la première émission, enfin tous. N'hésitez pas sur le podcast. Le Twitter, c'est Chessou. Et puis, Anne Gouzon nourrit donc les sites. Et semaine prochaine, il y aura Frédéric Danhé, il y aura... on va parler du Buis, tiens, très intéressant parce qu'il est un petit peu attaqué. Curieux de nature, 7h55, Bougrain-du-Bourg chez Patricia Martin, Nathalie Fontrelle à 7h20 tous les jours. Et puis 01 56 40 40 35, vous le savez, c'est aussi votre répondeur.